Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'un maximum de vêtements d'hommes, propres et en bon état. Voilà l'appel lancé par l'association La Roulotte Solidaire, installée le long des berges de la Prairie des Filtres, à Toulouse, juste en face de la Garonne. Une association qui leur propose des vêtements propres, un café, la possibilité de recharger un téléphone portable, mais aussi un lieu où se poser un moment, un lieu où trouver une écoute, un lieu pour souffler et partager ses difficultés. Un lundi matin ordinaire, La Roulotte Solidaire vient d'ouvrir ses portes. Une dizaine d'hommes en rupture de logement, de travail et de famille s'y retrouvent autour d'un café. Jean-Claude, l'un d'eux, est un auditeur fidèle de Radio Présence.
Mais j'écoute la nuit, j'écoute toutes les émissions, j'écoute Radio, j'écoute Marie-Noël Tabi, j'écoute, comment ça s'appelle, les chants grégoriens, il y a Étienne Dallaire, la Bible de A à Z, oui. Vous voyez, j'écoute. Parce que je suis solitaire, alors ça me tient compagnie.
C'est important pour vous d'avoir une radio ?
Ben, si je n'ai pas de radio et pas de chat, je commence à devenir déglingué. Mon équilibre mental tient à ça. La radio et mon pauvre animal de compagnie. C'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Vous vivez dehors ?
Ouais. Ça fait longtemps, mais je n'ose pas dire le nombre d'années. C'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Donc là, aujourd'hui, je vous retrouve à la roulotte solidaire.
Oui, ils sont gentils, hein, c'est des gens très gentils. C'est un peu comme vous, c'est des gens... Bon, même s'ils ne sont pas religieux, ils sont chrétiens de cœur, quoi. C'est des gens qui ont de la compassion, qui aident les autres, c'est bien, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme ça dans la société. Hein. Ah, ça va, dans l'ensemble, ça va. Hein.
Vous avez des caleçons ?
Oui.
Moi, je suis croyant, de temps en temps, je prie avec vous. Il y a moi, je n'aime pas beaucoup le chapelet à 3h, j'avoue que j'ai du mal à le suivre, mais le reste, c'est bien. Par Marie-Noël Tabule, dimanche, à 5h le matin, et il y a tous les textes de la messe. Et elle fait un bon commentaire, elle connaît bien la Bible. C'est toutes les semaines. Dallaire aussi. Puis il y a un type qui parle, oui, bon, ça dépend. Il y a un mec qui parle, il y a un monsieur qui parle du monde, de l'état du monde. Voilà, un homme qui connaît la politique, politique extérieure. Quoi, voilà, quoi.
Vous vous intéressez, vous, à l'état du monde, à la vie du monde ?
Ben, j'avoue maintenant que je commence à me replier aussi sur moi-même. Mais avant, si, j'étais bien en contact, je m'intéressais à la politique, à l'histoire, à pas mal de trucs. Maintenant, je commence à me recroqueviller un peu mentalement. Quoi.
Vous me dites que vous écoutez les textes de la messe. Vous allez à la messe parfois ? Ça vous arrive de rentrer dans une église ?
Bah, pas beaucoup, parce que je reconnais que quand je suis dans un état vestimentaire pas très avantageux, je préfère pas m'exposer quand même. Si je ne suis pas propre, si je ne me suis pas lavé, je préfère rester à part quand même. Parce que c'est comme ça, la nature humaine. Même si Paul a dit que si quelqu'un était mal habillé, il fallait quand même l'accueillir. Mais bon, le regard des gens n'est pas toujours très charitable, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la nature humaine, hein, c'est pas... après tout, on n'est pas toujours gentil avec les autres. Hein. Bon, c'est comme ça.
Voilà. Parmi tous ces hommes, une seule femme, Charlotte. Elle a 28 ans et estime avoir de la chance. Elle a un logement, mais sans eau chaude ni électricité.
Moi, je suis un peu protégée quand même. Dans les années 80, en 80. Donc ça me convient quand même. Mais bon. Surtout quand on est une fille, c'est pas évident de.
Mais là, on n'a pas besoin de commettre.
Il y a beaucoup de violence ?
Oui, il y a beaucoup de... Oui, parce qu'il y a des hommes qui boivent beaucoup. Du coup, ils pètent des câbles des fois. De temps en temps, ça arrive. Et moi, j'ai un chien, ça protège. J'ai une bonne chienne qui me protège bien.
Dans la journée, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes vous circulez en ville ? Qu'est-ce que vous faites dans la journée ?
En ville, avant j'y allais en ville faire un peu de manche. Et il y a eu des soucis depuis quelques temps. Il y a la police qui vire, qui veut plus personne dans le centre-ville. Donc petit à petit, ils commencent à faire partir un peu tout le monde qui fait la manche et pour qu'ils aillent vers l'extérieur, tout simplement, qu'ils ne soient pas à Capitole et tout. depuis une semaine. Maintenant, je vais plutôt à l'extérieur du centre. Et comme ça, je suis tranquille et il n'y a pas de problème de place, de soucis comme ça.
Non.
J'y arrive. Et j'ai passé mon enfance en Loire-Atlantique, vers Nantes, et j'ai voulu descendre parce que, déjà pour oublier les problèmes, les soucis familiaux, tout ça. Aussi le sud pour le soleil. J'essaye un peu de rester avec mon copain. Voilà, on reste tous les deux et on est très bien comme ça. On n'a pas envie de l'avoir.
Je l'ai pas. Qui c'est qui m'a laissé le café?
Et votre copain est dans la rue? Il est juste à côté. C'est lui. Et le copain, il s'appelle comment?
Pascal. Oui, pour l'instant, on est dans la précarité, mais on a toujours été un peu comme ça. Et puis nous, on ne s'attache pas forcément au matériel. On s'écarte beaucoup de toutes ces choses-là, en fait. Nous, on a vraiment envie, là, on va peut-être avoir un commerce à Gaillac.
On a payé. Il y a un projet.
Oui, on va mettre tout notre RSA dedans. Et puis, on va faire du déstockage à Gaillac. On a trouvé à 350 € par mois un loyer, qui fait que ça va nous sortir bien de cette situation. Et sinon, pour l'instant, on est obligé de faire la manche pour manger. Et puis, on récupère aussi pas mal d'animaux aussi un peu abandonnés, des chats, des chiens. On a à peu près 5-6 animaux à la maison. On a aussi 4 enfants en famille d'accueil, une fille et 3 garçons. 7 et 8, ouais, il va y avoir 7 et 8 là-bas. Voilà. Nous, on est croyants aussi. On est des jeunes dans la rue on est des messianiques. Les messianiques, c'est les juifs messianiques, c'est les juifs chrétiens. On veut monter une association aussi pour les gens en précarité. On veut aussi pouvoir essayer plus tard dans l'avenir avoir un terrain pour faire travailler à l'ancienne, vous savez, les légumes à l'ancienne, la volaille. Pour les gens qui veulent arrêter la drogue et l'alcool sans médicaments, sans médecins. Ça, c'est vachement. Moi, j'ai réussi. Alors, les gens, ils peuvent. Je pense qu'on peut réussir. On peut tous réussir, quoi. Il n'y a pas besoin de médicaments. Moi, j'ai jamais eu besoin de médicaments ni de médecin, quoi. J'ai déjà mon médecin qui est là-haut. Voilà, il m'a surtout encouragé. Et voilà.
Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, Guylaine.
Là, c'est l'endroit où on accueille les gens. Ils ont un petit coin café, on va dire, où on leur offre du café, du thé. Des petits gâteaux, voilà, ils peuvent se poser, discuter.
Est-ce qu'il y a du champagne ?
Ensuite, les vêtements. Alors, de ce côté, ce sont les vêtements pour les hommes. Vous voyez, il y a un tout, des blousons, des pantalons, des pulls, des chemises.
Vous avez tout bien installé, hein ?
C'est-à-dire, les retours qu'on a eus, il y en a qui sont très contents parce qu'ils ont l'impression de venir dans une boutique.
Ah bah oui, parce qu'il y a des rayonnages,
voilà.
Il y a des vêtements sur des cintres.
Oui. Donc, ils ont l'impression comme s'ils allaient faire leurs courses dans une boutique normale, entre guillemets, et ça les met en joie. On a une cabine d'essayage.
Avec un miroir, avec
un porte-manteau, voilà, qui conforte donc l'idée de la boutique. Bon, j'ai remarqué que c'est vraiment quelque chose que les gens accueillis apprécient.
Et voilà. Vous leur demandez une petite contrepartie, mais même symbolique ou
pas ? Non, rien. On a un système de fiches, là. Vous voyez, Philippe est en train de ranger les fiches. Voilà, on a un fichier alphabétique, on note que le prénom. Et chaque semaine, voilà, on met la date et puis on note ce qu'ils ont pris pour un peu réguler sur l'année.
Et ça permet de connaître le nombre de gens qui passent quand même. Actuellement,
on comptabilise,
si vous voulez, les fréquentations pour 2014, parce qu'on est, on a démarré que là, nous avons eu 615 passages.
En 4 mois.
En 4 mois. Bon, et en 2015, je n'ai pas encore fait le compte, mais si vous voulez, en 4 mois, sachant que les premiers jours, nous avons fait 2 ou 3 personnes. Donc ça fait beaucoup moins de 4 mois. On peut considérer qu'entre octobre et janvier, nous avons fait 615 passages.
Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre, et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas.
Un peu comme une péniche qui aurait fini par trouver un quai ou s'amarrer, la roulotte solidaire vient enfin, après des mois d'errance, de trouver son point d'ancrage. C'est une petite structure indépendante où l'amitié, la convivialité et des valeurs partagées rassemblent les 14 bénévoles, tous parties prenantes de l'aventure, qui s'est concrétisé un jour de septembre 2014.
Alors, nous avons ouvert le local le 4 septembre 2014, exactement. Nous avions monté l'association en février, donc il y a eu évidemment le temps d'environ 6 mois entre la naissance de l'association et l'ouverture du local. Il a fallu tout mettre en place. Et nous sommes un groupe de 14 bénévoles. Nous avons une expérience commune. Les 14, nous étions dans une autre grande association auparavant, dans un vestiaire aussi qui a fermé dans le quartier. Et comme nous souhaitions continuer notre action et tous ensemble, puisqu'il y avait une bonne entente, voilà, nous avons monté le vestiaire. Et on voulait rester dans le quartier Saint-Cyprien, parce que c'est vrai qu'il y a des besoins dans ce quartier. Il y a peut-être moins d'associations que sur l'autre rive, je ne sais pas. Et en plus, nous sommes situés pas loin de l'espace du Grand Ramier, où beaucoup de gens de la rue vont pour manger ou autre. Et aussi, il y a la Grave qui n'est pas loin, où il y a un service de santé, de douche. Donc on est vraiment au milieu, quoi. Ça s'appelle Roulotte parce qu'au départ, on avait un tout autre projet, un projet de douche dans une roulotte ou un camping-car, quelque chose comme ça, que nous n'avons pas pu réaliser, bon, parce que c'est vraiment en dehors de nos moyens financiers. Et donc, nous avons transformé ce projet en vestiaire. Au départ, on avait dit, on mettra une douche dans le coin, mais vous voyez, il n'y avait vraiment pas assez de place. Mais on a conservé le nom, parce que,
Il est symptomatique peut-être des gens de la rue qui sont en partance, qui ne sont pas enracinés, qui sont toujours sur le départ.
Oui, c'est vrai que dans le mot roulotte, il y a l'idée de déplacement, de voyage, d'errance aussi. Mais en même temps, nous sommes un point très stable, au contraire pour eux. C'est un point de stabilité pour eux quelque part. Ils savent que s'ils viennent tel jour à telle heure, ils trouveront un accueil, des vêtements, etc. Il y en a d'ailleurs qui ne viennent que pour boire un café ou discuter, pas nécessairement toujours pour des vêtements. Comme quoi, il y a vraiment un besoin de lien aussi. C'est un des objectifs, en plus de la distribution de vêtements ou d'offrir un café, c'est aussi de maintenir un lien social, de créer des liens avec les gens, puis entre eux aussi, parce que quand ils se rencontrent au coin café, par exemple, là, ils discutent, ça va, c'est un lieu où on les écoute, voilà, il y a une idée de reconnaissance, d'être comme tout le monde.
Et depuis que vous êtes installé ici dans la roulotte solidaire et puis peut-être auparavant avec votre expérience dans une autre association, est-ce que vous avez vu les besoins qui sont allés en croissant ?
Nous voyons de plus en plus de monde déjà. Là, nous accueillons environ entre 80 et 100 personnes par semaine. Beaucoup de jeunes dans l'idée de croissance. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont
en rupture,
précarité.
Oui. En rupture familiale.
Voilà, en rupture familiale ou autre.
Les hommes constituent la part la plus importante des gens de la rue et les bénévoles de la roulotte solidaire ont un grand besoin de vêtements masculins. Des vêtements propres, en bon état et appropriés à la vie dans la rue. Des vestes, des blousons chauds, des pulls, des jeans, des t-shirts, des chaussettes, des chaussures, nous l'avons dit. Mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes se retrouvent également dans la rue où prendre soin de soi, respecter des règles d'hygiène élémentaires est un vrai challenge. Quant à garder leur part de féminité, la plupart y ont renoncé. Mais pas Karine. Karine est esthéticienne et membre de la roulotte solidaire. Son combat, sa mission, rendre à ces femmes de la rue l'estime d'elles-mêmes, leur procurer un moment de bien-être.
Il m'arrive parfois, sur certaines jeunes femmes, jeunes filles, de leur apporter quelques soins en esthétique, un petit maquillage, un petit soin du visage, un peu de manucurie, pour leur redonner un petit peu de dignité, parce que c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on ne doit plus être une femme. Les recoiffer un petit peu, leur redonner l'envie d'être épanouie et
Et de bien-être aussi.
Et de bien-être et de se ressentir femme à nouveau. Voilà, parce que c'est important aussi, parce qu'il y a certaines jeunes femmes qui cherchent du travail aussi. Donc elles ont besoin d'être présentables, entre guillemets. Donc voilà ce que je peux apporter ici aussi.
Dans l'association, vous donnez beaucoup, vous recevez aussi.
Énormément. C'est très très émouvant quand vous avez une jeune femme qui arrive, qui est pas très bien moralement, parce que physiquement c'est sûr qu'elle elle va vous dire que ça fait des années voire des mois qu'elle ne s'est pas regardée dans un miroir. Donc vous restez une demi-heure avec elle, voire un petit peu plus, et le fait ne serait-ce que de lui toucher son visage. Moi j'ai eu des jeunes femmes qui se sont mises à pleurer et c'est très très émouvant. Et après, quand elles se regardent, parce que j'attends vraiment la fin, et après je les fais regarder dans un miroir, et là c'est l'effondrement total, quoi. Et pour elles et pour moi. Ça, c'est des choses que vous ne vivez pas dans une salle. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans l'esthétique, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout comparable. Il n'y a pas la même demande. C'est pas les mêmes personnes que vous avez en face, quoi. Là, c'est vraiment des femmes souvent qui sont détruites. Hein. Des jeunes femmes qui sortent de prison aussi. Donc, alors, en prison, n'en parlons pas. Elles savent même plus ce que c'est que l'odeur d'un rouge à lèvres ni d'une eau de toilette. Le parfum aussi, je ne vous en ai pas parlé du parfum. Par chance, j'ai eu des dons de parfum. Et il m'est arrivé de parfumer certaines dames. C'était pareil, c'était une embellie totale entre le maquillage et un parfum que vous pouvez lui apporter. Elles sont femmes, elles ont le droit de rester femmes, quoi. Et ça, c'est important, même dans la rue, quoi. Ce sont des métiers où vous êtes dans l'intimité parce que vous occupez d'elles. Hein. Et alors là, elles se lâchent un petit peu, elles vous parlent de leur vie, pourquoi elles en sont arrivées là, pourquoi elles ont fait de la prison, pourquoi elles sont dans la rue aujourd'hui, pourquoi elles sont droguées, toxicomanes, alcooliques. Et moi qui ne travaille pas du tout dans le milieu social aussi, eh bien, c'est thérapeutique pour elle. Et je peux vous assurer que ça vous fait réfléchir aussi de la vie en général. Et je crois qu'après, il y a une petite complicité mutuelle qui s'installe. Parce qu'elles reviennent. Et on n'est pas copines parce qu'on ne peut pas. Il faut garder la distance. On ne peut pas être amies, on ne peut pas être copines. On peut pas... Parce que c'est important aussi. Parce que c'est pas évident non plus. Mais c'est des moments de partage qui sont intenses, enrichissants pour les deux personnes. Et ça, c'est très important. Et puis je revendique encore à dire que on est femme et même dans la rue, on a le droit de rester femme dans notre dignité. Et puis quand vous voyez le plaisir que vous leur apportez, ne serait-ce qu'un brin de fard à paupières, un peu de mascara et de rouge à lèvres, parce que c'est plus les mêmes femmes. Comme quoi, parfois, il en faut peu. Et c'est pas superficiel, parce que ça fait partie de la femme, quoi.
Installée depuis quelques mois à peine, la roulotte s'est déjà insérée dans la vie du quartier. Une voisine sur le pas de sa porte.
Je peux vous dire même que ce sont des gens qui ont le mérite de s'occuper de la misère humaine, c'est tout. Je viens de le dire ce matin à M. Biasotto, le maire du quartier, où je suis allée. Il faut le faire, ce qu'il faut. Moi, tout le monde vient taper en me disant qu'est-ce que c'est à côté. Enfin, j'en entends de toutes les couleurs, mais je ne partage pas leur avis parce que je trouve qu'elles ont du mérite. Je crois que la misère quand même existe. Je rentre de Paris, j'en ai vu, mais je crois qu'ici aussi nous en avons. Alors que nous étions un quartier modeste, je ne suis pas jeune, je suis du coin. Mais là c'est une autre forme de misère. Je vois les femmes avec des enfants, je vois beaucoup d'étrangers, ça c'est sûr, mais la misère elle n'a pas de nationalité.
La roulotte fonctionne avec des dons, des bonnes volontés, mais ça ne suffit pas. Il faut payer le loyer, le gaz, l'électricité, le téléphone, acheter des kits d'hygiène, des sous-vêtements. vice-présidente, Edith est également la trésorière de l'association.
Donc pour l'instant, nous n'avons obtenu que 200 euros de la mairie de Toulouse. Pour l'instant, on se finance vraiment, c'est de l'autofinancement. Nous avons fait tout l'été des vide-greniers. On récupère des objets à gauche, à droite, qu'on revend dans les vide-greniers. Et ce qui nous a permis, ce qui nous permet de tenir un an en payant le loyer. Un loyer de 300 euros, plus les charges, l'électricité, l'eau, l'assurance. Voilà. Et ça nous permet d'acheter le café, le thé et tous les produits d'hygiène qu'on leur donne.
Voilà. Donc pour l'instant, c'est une histoire de solidarité, d'amitié, de réseau. Voilà,
c'est un réseau, c'est une histoire d'amitié avant tout. Et voilà, on se connaît tous. Et voilà, c'est beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail parce que se lever pour faire les vide-greniers à 5h30, 6h, remballer, déballer. Voilà. Mais c'est ce qui nous a permis d'ouvrir, puisqu'on n'avait rien.
Pour remercier les donateurs et leur donner à voir ce qui, grâce à leurs dons, a pu être réalisé, les bénévoles de la roulotte avaient organisé un samedi de février une journée portes ouvertes. Une façon également de sensibiliser les élus, de les intéresser à leurs projets. Julien Klotz, conseiller général du canton.
J'ai rencontré une bénévole de l'association lors d'un vide-grenier, pas très loin d'ici, place du Ravelin, fin d'année dernière. Et du coup, j'avais pris contact, je leur avais proposé de les soutenir financièrement, puisque c'est une association récente et qui a besoin de soutien financier pour fonctionner. Et voilà, et donc j'ai reçu une invitation pour cette journée porte ouverte. Donc je suis venu à leur invitation pour faire un peu plus connaissance avec eux, puisque c'était un peu bref quand on s'était rencontrés au mois de septembre dernier. Voilà.
Quel est le poids et la place de ces associations dans la politique d'aide aux gens de la rue, aux plus démunis ?
Donc effectivement, les associations sont indispensables. Il faut que les actions publiques s'articulent avec les associations et les politiques publiques ne peuvent pas agir toutes seules, elles ont besoin des associations, enfin ça se complète et notamment en tout cas pour ce qui est de l'action du Conseil Général, il y a une articulation entre les associations et les maisons des solidarités où les assistants et assistantes sociaux connaissent les associations et échangent avec les associations pour savoir ce qu'elles font, pour envoyer des personnes venir bénéficier de prestations, etc. Et du coup, il y a un travail qui est fait aussi dans les maisons des solidarités gérées par le Conseil Général qui est moins connu et qui est de faire un diagnostic de territoire pour voir quelles sont les associations qui existent, toutes les prestations, et pour voir s'il y a des manques et pour les besoins, puisque et aider ou impulser des actions pour combler ces besoins sur certains territoires. Et donc cette association qui s'est créée il n'y a pas si longtemps que ça et qui est déjà, on voit que les rayons sont bien remplis et qu'elle est bien organisée. Enfin moi je trouve qu'en quelques mois ils ont fait quelque chose de super et donc c'est bien. Ce dont on discutait aussi juste avant, c'est que cette association, donc son local est situé près des transports en commun au cœur de Toulouse et c'est quelque chose de très important pour le public qui a besoin de vêtements, de chaussures, etc. C'est de pouvoir, et ces gens-là n'ont pas non plus de moyens de déplacement et donc c'est important d'être en ville, au cœur de la ville avec eux en fait, avec ces gens-là. Et voilà, donc tous ces éléments que cette association réunit, donc je trouve que c'est une belle réussite. Voilà, donc si on peut, on va essayer de la soutenir pour poursuivre son action.
Pour Christophe Alves, adjoint au maire de Toulouse en charge des affaires sociales et du handicap et président délégué du CCAS, les politiques de soutien aux plus faibles et aux plus nécessiteux ne peuvent aujourd'hui trouver de solutions durables et satisfaisantes que dans des partenariats public-privé.
Alors en fait, c'est très simple. Il y a un constat qui existe aujourd'hui à Toulouse, c'est qu'on doit faire... On doit faire face à des restrictions budgétaires importantes. Le maire de Toulouse lui-même le rappelle régulièrement. On a un contexte financier à Toulouse qui est très compliqué, parce que la situation financière de la ville de Toulouse elle-même est très compliquée, mais qu'ensuite aussi il y a un problème qui est réel, c'est la baisse des dotations de l'État. Donc aujourd'hui, quand on veut conduire une politique sociale ambitieuse, avec des contraintes financières, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Donc moi, les solutions auxquelles je crois, je n'ai pas encore pu juger les résultats, puisque j'y travaille pour l'instant, mais en tout cas, les solutions auxquelles je crois, c'est le partenariat public-privé. Vous savez, en politique, on nous parle souvent du phénomène du vivre ensemble dans un certain nombre de quartiers. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, avant de parler du vivre ensemble, il faut travailler ensemble pour vivre ensemble, justement, après. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, que ce soit au titre de la ville de Toulouse ou au titre du CCAS, c'est d'aller nouer des partenariats privés avec des acteurs économiques importants de la région. Je cite par exemple le cas d'Airbus, chez qui j'étais cette semaine pour traiter les questions du handicap, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on noue des partenariats publics-privés pour porter ensemble des projets de politique sociale ambitieuses et qui répondent en plus à des attentes importantes, hein, surtout au jour d'aujourd'hui dans notre société, ben je crois qu'on sera encore beaucoup plus fort. Et je crois que la politique sociale, c'est comme ça qu'elle doit se conduire aujourd'hui. On ne peut plus faire du social comme on faisait il y a 20 ans en arrière, tout seul, isolé. Le social, c'est la mairie, le social, c'est le conseil général. Oui, ça fait partie de nos compétences premières, mais pour autant, il faut arriver à le travailler avec des partenaires privés aujourd'hui.
L'appel auprès des pouvoirs publics a été lancé. Les bénévoles espèrent qu'il sera entendu. Ce qui ne les empêche pas d'agir par eux-mêmes, de faire preuve d'une ingéniosité toujours renouvelée et de mener des actions communes avec d'autres associations, avec la péniche Salambeau notamment. Les besoins sont immenses et les 14 bénévoles élargiraient leur cercle avec joie. Là encore, l'appel est lancé.